Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui d'étudier l'évangile de dimanche prochain, troisième dimanche de carême, un épisode surnommé « Les vendeurs chassés du temple ». Nous sommes dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 2, les versets 13 à 25. Je vous lis le texte. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait pas besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Donnons tout d'abord quelques précisions sur ces vendeurs du temple. Souvenons-nous que depuis la réforme de Josias au 7e siècle, il n'y a plus qu'un seul lieu où l'on peut offrir les sacrifices, c'est le temple de Jérusalem. Il y avait trois grandes fêtes de pèlerinage dans le judaïsme, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tentes, et on venait donc à Jérusalem avec des animaux qui seraient présentés en sacrifice dans le temple. Lorsqu'on venait de loin, c'était très pratique de pouvoir trouver sur place les animaux qui seraient utilisés pour le sacrifice et pour ne pas avoir à les transporter avec soi pendant un long voyage. D'autre part, pour pouvoir faire une offrande au temple, on ne devait pas utiliser la monnaie romaine qui portait l'effigie de César. Il était interdit pour les Juifs de faire des effigies à l'image humaine ou à l'image d'animaux. C'était demandé dans les 10 commandements. Et donc les changeurs permettaient d'échanger justement la monnaie romaine contre une monnaie juive qui pourrait être utilisée à l'intérieur du temple. À la base, donc, tous ces marchands rendent un service réel à ceux qui viennent en pèlerinage au temple de Jérusalem pour offrir leurs sacrifices, pour se rapprocher du Seigneur. Cependant, les marchands du temple n'étaient pas restés à leur place. Normalement, ils devaient se trouver au bas de l'esplanade, et non pas sur l'esplanade. Or, les marchands s'étaient de plus en plus installés sur le parvis des païens, sur ce qu'on appelle le parvis des païens, c'est-à-dire cette grande place sur l'esplanade. Ce n'est pas à l'intérieur du bâtiment du temple proprement dit, c'était quand même un territoire du temple, et c'était un territoire du temple sur lequel les païens pouvaient entrer. Vous savez qu'à l'intérieur du bâtiment du temple, un païen qui serait entré aurait été mis à mort. Et la loi romaine reconnaissait la possibilité de mettre à mort par les Juifs quelqu'un qui aurait franchi cette limite, alors que les Romains se réservaient de façon ordinaire la peine de mort pour qui que ce soit. qui pouvaient bien être les païens qui montaient sur le parvis? Eh bien justement ce qu'on appelle les craignants Dieu, ce sont des païens qui ont entendu parler de l'alliance d'Israël, qui ont été touchés par cette révélation du Seigneur, mais qui n'ont pas franchi le pas de la circoncision et le pas de l'application de la loi juive dans toutes ses prescriptions. Je joins à cet enseignement une représentation de l'esplanade du Temple de Jérusalem avant sa destruction en 70, où vous pourrez voir la succession des enceintes, le parvis des païens, le parvis des femmes, le parvis des Israélites, le parvis des prêtres, le saint et le saint des saints. Le temple de Jérusalem était le lieu où le Seigneur avait promis à son peuple d'être proche. Dieu est présent partout dans la pensée juive, mais il se fait proche, il se fait particulièrement à l'écoute au sein du temple de Jérusalem. Et donc la présence des marchands sur le parvis des païens transforme un lieu qui devait être une première annonce de la foi et de l'alliance, en particulier vis-à-vis de ceux qui ne sont pas encore des membres du peuple, voilà que ce lieu était encombré par les transactions commerciales. Voilà que le lieu qui devait être la première approche, on pourrait dire, du Seigneur, le premier lieu de recueillement, le premier lieu de préparation, était perturbé par les échanges et les tractations commerciales qui s'y tenaient. L'action de Jésus rend au temple sa véritable destination, le lieu où l'on vient rencontrer le Seigneur. Il dégage, il chasse ce qui masque, ce qui perturbe cette destination, cette rencontre avec le Seigneur. L'action de Jésus nous invite à réfléchir à ce que sont dans notre vie les marchands du temple qui perturbent notre accès à la relation avec le Seigneur, qui rendent difficile le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Le lieu de ma rencontre avec le Seigneur, ce peut être ma prière personnelle, ce peut être ma prière de couple, ce peut être aussi ma participation à la messe dominicale. À la suite de Jésus qui désencombre le temple, je peux aussi désencombrer mon accès à la prière. Qu'est-ce qui m'encombre si bien que je ne peux pas préparer mon temps de prière? Qu'est-ce qui m'encombre si bien que j'arrive en retard? Qu'est-ce qui m'encombre si bien que je pars en avance? Ce sont parfois des choses toutes simples. Le lieu où je veux prier est encombré de tellement de choses que mon esprit est facilement détourné. Peut-être serait-il bon alors de ménager, de réaménager un coin prière qui est vraiment consacré au Seigneur, avec une icône, avec un crucifix, un espace où je peux m'installer et être tourné vers le Seigneur sans penser à ce que j'ai à faire autrement. Parfois, ça peut même être une volonté de trop bien faire. Pour pouvoir être tranquille pour prier, il faut absolument que j'aie fini tout ce que j'avais à faire. Et du coup, j'arrive en retard, et du coup, je ne tiens plus mon temps de prière. Reprenons cet élément fondamental. Je ne pourrai travailler correctement que si j'ai fondé ma journée sur mon temps de prière, que si je suis allé planter en Dieu les fondations de tout mon ouvrage de ce jour. Remarquons encore que, dans son action de purification du temple, le Seigneur Jésus utilise une force certaine. On se dit qu'il fit un fouet avec des cordes, il les chassa tous les vendeurs, ainsi que les brebis et les bœufs, il renverse la monnaie des changeurs. Cette libération de l'espace du parvis des païens demande de la force. Eh bien, de la même façon, notre détermination pour libérer l'espace qui nous permet d'aller rencontrer le Seigneur demandera une certaine force. Et dans notre prière, nous pouvons demander la force du Christ. C'est là encore une chose que nous ne faisons pas souvent, Seigneur. Pour pouvoir, par exemple, me libérer des soucis de l'organisation de ma journée qui vient encombrer ma prière, je te demande d'intervenir et d'intervenir avec force. Comme tu fis un fouet autrefois, viens chasser ces idées qui n'ont pas leur place maintenant, qui n'ont pas leur place ici, qui est le temps de la prière. La force qu'utilise le Christ est réelle et en même temps, elle est mesurée. Ce n'est pas une rage aveugle où il traiterait tout ce qui est dans son passage de la même façon. On remarque que, tandis qu'il avait renversé les comptoirs des changeurs, aux marchands de colombes, qui étaient généralement les marchands les plus pauvres, il leur dit « Enlevez cela d'ici. La force est réelle, mais pas aveugle. » Donc par notre liberté, nous pouvons demander au Seigneur d'exercer son autorité et sa force pour faire tomber ces comptoirs d'échangeurs ou pour chasser ces vendeurs qui nous empêchent justement de nous tourner vers le Seigneur, qui encombre cette relation qui devrait être privilégiée avec le Seigneur. Dans le prolongement de cette demande, je voudrais relever un détail de la fin du texte de l'Évangile où l'on nous dit que Jésus ne se fiait pas à ceux qui pourtant, à la vue des signes accomplis, avaient cru en lui, parce que, nous dit l'Évangéliste, il connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Jésus sait que notre cœur parfois s'enflamme, mais il a une difficulté à demeurer, à continuer dans la fidélité, à persévérer dans la fidélité. Et donc Jésus vient intervenir pour nous donner, nous apprendre cette fidélité, mais nous devons l'avoir aussi en tête, c'est un combat pour la fidélité. Eh bien, dans ce que nous demandons au Seigneur dans ce carême, dans ce que nous voulons faire pour le Seigneur en ce carême, il y a peut-être un élément de mesure et de fidélité à avoir en tête. Ce que nous demandons dans ce carême, que ce soit peut-être sur peu de choses, mais faisons-les bien et faisons-les jusqu'au bout. Peu de choses, voilà mon engagement de carême, mais bien et jusqu'au bout. Trois petits éléments, peu, bien, mais jusqu'au bout, qui nous aideront justement à nous engager dans la fidélité et de conserver le fruit de ce que le Seigneur aura dégagé pour que nous puissions rencontrer le Père. Je voudrais terminer en relevant un autre détail de ce texte. Par deux fois, on manifeste que les disciples se rappelèrent ce que Jésus avait dit, ou un passage de l'Écriture, et que cela ouvrit leur compréhension. J'en tire deux remarques. La première, c'est que les disciples ne comprenaient pas tout de suite, et donc nous aussi ne nous étonnons pas de ne pas tout comprendre tout de suite. La deuxième, c'est la connaissance de la vie de Jésus et la connaissance des Écritures qui leur permet de se rappeler et d'être illuminés. Et là aussi, du coup, il y a un souci de notre part à connaître la vie de Jésus, à être familier du coup des évangiles, et à devenir familier de l'Écriture pour pouvoir reconnaître et interpréter ce que Jésus nous a laissé. Dans le temps, il y a un effort de mémoire, il y a une illumination qui se fait si nous sommes familiers des Écritures et de la vie de Jésus. Retenons peut-être particulièrement trois choses aujourd'hui. La première, l'invitation à réfléchir quels sont les vendeurs que nous devons chasser pour libérer cet accès au Seigneur. La deuxième, ne pas oublier de demander que s'exerce cette autorité du Seigneur pour que nous puissions chasser ces vendeurs, ce qui encombre notre possibilité de rencontre, de relation avec le Seigneur. Troisièmement, avoir ce souci d'être familier des Écritures, en particulier de la vie de Jésus, car c'est par là que nous nous rappellerons des choses et que s'illuminera aussi pour nous, dans le temps, ce que le Seigneur veut nous donner. Je vous souhaite de bons échanges.